Chapitre 34. Elle connaissait au bord de la Marmara, du côté asiatique, une petite plage solitaire, très abritée, disait-elle, de ce vent qui désole le Bosphore, et tiède comme une orangerie. Justement, une de leurs amies habitait aux environs, et s'engageait à fournir un alibi très acceptable, en affirmant mordicus les avoir retenus toute la journée. Donc, elles avaient décidé qu'on tenterait de faire par là une dernière promenade ensemble, avant cette séparation prochaine, qui pouvait si bien être la grande et la définitive. André comptait prendre bientôt un congé de 2 mois pour la France. Jenna devait aller avec sa grand-mère, passer la saison des froids dans son domaine d'Oubou-Marbashi, et entre eux, le revoir ne serait plus qu'au printemps de l'année suivante, et d'ici là, tant de drames pouvaient advenir. Le dimanche 12 décembre 1904, jour choisi pour cette promenade, après 1000 combinaisons et roueries, se trouva être l'un de ces jours de splendeur qui, sous ce climat variable, viennent tout à coup en plein hiver entre 2 périodes de neige ramener l'été. Sur le pont de la Corne d'Or, d'où partent les petites vapeurs pour les échelles d'Asie, ils se rencontrèrent en plein soleil de midi, mais sans broncher, en voyageurs qui ne se connaissent point, et ils prirent, comme par hasard, le même bateau, où elles s'installèrent correctement dans leur roufle harem réservé aux musulmanes, après avoir congédié nègres et négresses. À bord de ce beau ciel, il y avait aujourd'hui un monde fou qui allait se promener sur l'autre rive. En même temps qu'eux, était partie une 50aine de dames fantômes, et quand on accosta à l'échelle de Scutari, André, s'embrouillant au milieu de tous ces voiles noires qui débarquaient ensemble, prit d'abord une fausse piste, suivit 3 dames qu'il ne fallait pas et risqua d'amener un affreux scandale. Par bonheur, elles avaient l'allure moins élégante que le petit trio en marche là-bas, et il les lâcha, tout confus, au détour du premier chemin, pour rejoindre ses 3 amis, les vrais cette fois. Ils frétèrent une voiture de louage, la même pour eux 4, ce qui est toléré à la campagne. Lui étant le bey, s'assit à la place d'honneur, contrairement à nos idées occidentales. Jenan à côté de lui, Zeyneb et Melek en face sur la banquette de devant. Et les chevaux, lancés au trot, elles éclatèrent de rire toutes les 3 sous leur voile, à cause du tour bien joué, à cause de la liberté conquise jusqu'à ce soir, à cause de leur jeunesse et du temps clair et des lointains bleus. Elles étaient du reste le plus souvent adorables de gaieté enfantine, entre leurs crises sombres, même Zeyneb, qui savait oublier son mal et son désir de mourir. C'est avec une souriante aisance de défi qu'elle bravait tout, la séquestration absolue, l'exil, ou peut-être quelque autre châtiment plus lourd encore. À mesure qu'on s'avançait le long de la Marmara, le perpétuel courant d'air du Bosphore se faisait de moins en moins sentir. Leur petite baie était loin, mais baignée d'air tiède, comme elle l'avait prévu, et si paisible dans sa solitude, si rassurante pour eux dans son absolu délaissement. Elle s'ouvrait au plein sud, et une falaise en miniature l'entourait comme un abri fait exprès. Sur ce sable fin, on était chez soi, préservé des regards comme dans le jardin clos d'un harem. On ne voyait rien d'autre que la Marmara, sans un navire, sans une ride, avec seulement la ligne des montagnes d'Asie à l'extrême horizon. Une Marmara toute d'immobilité, comme au beau jour apaisé de septembre, mais peut-être trop pâlement bleue, car cette pâleur apportait, malgré le soleil, une tristesse d'hiver, on eût dit une coulée d'argent qui se refroidit. Et ces montagnes, tout là-bas, avaient déjà leurs neiges éblouissantes. En montant sur la petite falaise, on apercevait âmes qui vivent, dans la plaine un peu nue et désolée qui s'étendait alentour. Donc, ayant relevé leur voile jusqu'aux cheveux, toutes trois se grisèrent pur. Jamais encore André n'avait vu au soleil, au grand air, leurs si jeunes visages un peu pâlis. Jamais encore ils ne s'étaient sentis tous dans une si complète sécurité ensemble, malgré les risques fous de l'entreprise et les périls du retour ce soir. D'abord, elles s'assirent par terre pour manger des bonbons achetés en passant chez le confiseur en vogue d'Istanbul. Et ensuite, elles passèrent en revue tous les recoins de la gentille baie, devenus leur domaine clandestin pour l'après-midi. Un étonnant concours de circonstances et de volonté et d'audace avait réuni là, par cette journée de décembre si étrangement ensoleillée, presque inquiétante d'être si belle et d'être si furtive entre deux crises du vent de Russie, ces hôtes qui lui arrivaient de mondes très différents et qui semblaient voués par leur destinée première à ne se rencontrer jamais. Et André, en regardant les yeux, le sourire de cette Jeannan, qui allait repartir après-demain pour son palais de Macédoine, appréciait tout ce que l'instant avait de rare et de non retrouvable. Les impossibilités qu'il avait fallu déjouer pour se réunir là, devant la pâleur hivernale de cette mer, les impossibilités reparaîtraient encore demain et toujours. Qui sait? On ne se reverrait peut-être même jamais plus, au moins avec tant de confiance et le cœur si léger. C'était donc une heure dans la vie à noter, à graver, à défendre, autant que faire se pourrait, contre un trop rapide oubli. À tour de rôle, l'un d'eux montait sur la minuscule falaise pour signaler les dangers de plus loin. Et une fois, la dame du guet, qui était Zeyneb, annonça un Turc arrivant le long de la mer, en compagnie lui aussi de trois dames en voile relevée. Elles jugèrent que ce n'était pas dangereux, qu'on pouvait affronter la rencontre. Seulement, elles rabattirent pour un temps les gaz noirs sur leurs visages. Quand le Turc passa, sans doute quelque bey authentique promenant les dames de son harem, celles-ci avaient également baissé leur voile à cause d'André. Mais les deux hommes se regardèrent distraitement, sans méfiance d'un côté ni de l'autre. L'inconnu n'avait pas hésité à prendre ces gens rencontrés dans cette baie pour les membres d'une même famille. De petits cailloux tout plats, comme taillés à souhait, que le flot tranquille de la Marmara avait soigneusement rangés en ligne sur le sable, rappelèrent tout à coup à André un jeu de son enfance. Il apprit donc à ses trois amis la manière de les lancer pour les faire sautiller longtemps à la surface polie de la mer, et elles s'y mirent avec passion, sans succès du reste. Mon Dieu, combien elles étaient enfants, et rieuses et simples aujourd'hui, ces trois pauvres petites compliquées, surtout cette Jeannan, qui s'était donné tant de mal pour gâcher sa vie. Après cette heure unique, ils allaient rejoindre leur voiture qui attendait là-bas, loin, pour les ramener à Scutari. Sur le bateau, bien entendu, ils ne se connaissaient plus. Mais pendant la courte traversée, ils eurent ensemble la réapparition merveilleuse d'Istanbul, éclairage des soirs limpides. Istanbul, vue de face en enfilade. D'abord les farouches remparts crénelés du vieux sérail, que baignait la nappe tout en argent rose de la Marmara, et puis au-dessus l'enchevêtrement des minarets et des coupoles, profilés sur un rose différent, un rose de décembre aussi, mais moins argenté, moins blême que celui de la mer, tirant plutôt sur l'or. Chapitre 35. Jeannan à André le lendemain. Encore une fois sauvé. Ah, nous avons eu de terribles difficultés au retour. Mais maintenant il fait calme dans la maison. Avez-vous remarqué en arrivant comme notre Stamboul était beau? Aujourd'hui la pluie, la neige fondue battent nos vitres. Le vent glacé joue de la flûte triste sous nos portes. Combien nous aurions été malheureux si ce temps-là s'était déchaîné hier, à présent que notre promenade est dans le passé et qu'il nous en reste comme le souvenir d'un joli rêve, elles peuvent souffler toutes les tempêtes de la mer Noire. André, nous ne reverrons pas avant mon départ. Les circonstances ne permettent plus d'organiser un rendez-vous à Istanbul. C'est donc mon adieu que je vous envoie, sans doute jusqu'au printemps. Mais voulez-vous faire une chose que je vous demande en grâce? Dans un mois, quand vous partirez pour la France, puisque vous comptez prendre les paquebots, emportez un fez et choisissez la ligne de Salonique. On s'y arrête quelques heures, et je sais un moyen de vous y rencontrer. Un de mes nègres viendra vous porter à bord le mot d'ordre. Ne me refusez pas. Que le bonheur vous accompagne, André, dans votre pays. Jenan. Après le départ de Jenan, André resta 5 semaines encore à Constantinople, où il revit Zeneb et Melek. Quand le moment vint de prendre son congé de 2 mois, il s'en alla par la ligne indiquée en portant son fez. Mais à Salonique, aucun nègre ne se présenta au paquebot. La relâche fut donc pour lui toute de mélancolie, à cause de cette attente déçue, et aussi à cause du souvenir de Nedjibé qui planait encore sur cette ville et sur ses arides montagnes alentour. Et il repartit, sans rien savoir de sa nouvelle amie. Quelques jours après être arrivé en France, il reçut cette lettre de Jenan. Bounarbashi, près Salonique, 10 janvier 1905. Quand et par qui pourrais-je faire jeter à la poste ce que je vais vous écrire, gardé comme je le suis ici? Vous êtes loin et on n'est pas sûr que vous reviendrez. Mes cousines m'ont raconté vos adieux et leur tristesse depuis votre départ. Quelle étrange chose, André, si on y songe, qu'il y a des êtres dont la destinée soit de traîner la souffrance avec eux, une souffrance qui rayonne sur tout ce qui les approche. Vous êtes ainsi, et ce n'est pas votre faute. Vous souffrez de peines infiniment compliquées, ou peut-être infiniment simples. Mais vous souffrez. Les vibrations de votre âme se résolvent toujours en douleur. On vous approche, on vous hait ou l'on vous aime, et si l'on vous aime, on souffre avec vous, par vous, de vous. Ces petites de Constantinople, vous avez été cette année un rayon dans leur vie, rayon éphémère, elles le savaient d'avance, et à présent elles souffrent de la nuit où elles sont retombées. Pour moi, ce que vous avez été, peut-être un jour vous le dirai-je. Ma souffrance est moins de ce que vous soyez parti que de vous avoir rencontré. Vous m'en avez voulu sans doute de n'avoir pas arrangé une entrevue à votre passage par Salonique. La chose en soi était possible dans la campagne qui est déserte comme au temps de votre Nedjibé. Nous aurons eu 10 minutes à nous pour échanger quelques mots d'adieu à un serrement de main. Il est vrai, mon chagrin n'en aurait pas été allégé, au contraire. Pour des raisons qui m'appartiennent, je me suis abstenu. Mais ce n'est pas la peur du danger qui a pu m'arrêter, au loin de là. Si pour aller à vous, j'avais eu la mort embusquée sur le chemin de mon retour, je n'aurais pas eu d'hésitation ni de trouble, je vous aurais porté alors, André, l'adieu de mon cœur, tel que mon cœur voudrait vous le dire. Nous autres, femmes turques d'aujourd'hui, nous n'avons pas peur de la mort. N'est-ce pas vers elle que l'amour nous pousse? Quand donc, pour nous, l'amour a-t-il été synonyme de vie? Jenan. Et Melek, chargé de faire passer cette lettre en France, avait ajouté, sous la même enveloppe, ses réflexions qui lui étaient venues. En songeant longuement à vous, notre ami, J'ai trouvé, j'en suis sûr, plusieurs des causes de votre souffrance. Oh, je vous connais maintenant, allez. D'abord, vous voulez toujours tout éterniser, et vous ne jouissez jamais pleinement de rien, parce que vous vous dites, cela va finir. Et puis, la vie vous a tellement comblé. Vous avez eu tant de choses bonnes dans les mains, tant de choses dont une seule suffirait au bonheur d'un autre, que vous les avez toutes laissées tomber, parce qu'il y en avait surabondance. Mais votre plus grand mal, c'est qu'on vous a trop aimé et qu'on vous l'a trop dit. On vous a trop fait sentir que vous étiez indispensable aux existences dans lesquelles vous apparaissiez. On est toujours venu au-devant de vous. Jamais vous n'avez eu besoin de faire aucun pas dans le chemin d'aucun sentiment. Chaque fois, vous avez attendu. À présent, vous sentez que tout est vide, parce que vous n'aimez pas vous-même. Vous vous laissez aimer. Croyez-moi, aimez à votre tour, n'importe une quelconque de vos innombrables amoureuses, et vous verrez comme ça vous guérira. Mélèque. La lettre de Djenan déplut à André, qui la jugea pas assez naturelle. Oh, si son affection, se disait-il, était si profonde, elle aurait avant tout et malgré tout désiré me dire adieu, soit d'Istanbul, soit d'un Salonique. Il y a de la littérature là-dedans. Il se sentait déçu. Sa confiance en elle était ébranlée et il en souffrait. Il oubliait que c'était une orientale, plus excessive en tout qu'une européenne, et d'ailleurs bien plus indéchiffrable. Il fut sur le point, dans sa réponse, de la traiter en enfant, comme il faisait quelquefois. Un être qui traîne la souffrance avec lui. Alors, nous y voilà, à votre homme fatal que vous déclariez vous-même démodé depuis 1830. Mais il craignit d'aller trop loin et répondit sur un ton sérieux, lui disant qu'elle l'avait péniblement atteint en le laissant partir ainsi. Aucune communication directe n'était possible avec elle, à Buarpachi, dans son palais de Belle au bois dormant. Tout devait passer par Stamboul, par les mains de Zeyneb ou de Melek, et de bien d'autres complices encore. Au bout de 3 semaines, il reçut ces quelques mots dans une lettre de Zeyneb. « André, comment vous blesser de n'importe ce que je puis dire ou faire, moi qui suis à rien auprès de vous? Ne savez-vous pas que toute ma pensée, toute mon affection est une chose humble, que vos pieds peuvent fouler? Un long tapis ancien, au dessin quand même encore joli, sur lequel vos pieds ont le droit de marcher. » Voilà ce que je suis, et vous pourriez vous fâcher contre moi, m'en vouloir. Jenan. Ah, elle était redevenue orientale tout entière là-dedans. Et André, qui en fut charmé et ému, lui écrivit aussitôt, cette fois avec un élan de douce affection, d'autant plus que Zeyneb ajoutait: Jenan est malade là-bas, d'une fièvre nerveuse persistante, qui inquiète notre grand-mère et le médecin ne sait qu'en penser. Des semaines après, Jenan le remercia par cette petite lettre, encore très courte et orientale autant que la précédente. Boumarbashi, 21 février 1905. Je me disais depuis des jours, où est-il le bon remède qui doit me guérir? Il est arrivé, le bon remède, et mes yeux, qui sont devenus trop grands, l'ont dévoré. Mes pauvres doigts pâles le tiennent, merci. Merci de me faire l'aumône d'un peu de vous-même, l'aumône de votre pensée. Soyez bénis pour la paix que votre seconde lettre m'a apportée. Je vous souhaite du bonheur, ami, en remerciement de l'instant de joie que vous venez de me donner. Je vous souhaite un bonheur profond et doux. Un bonheur qui charme votre vie comme un jardin parfumé, comme un matin clair d'été. Jenan. Malade, vaincue par la fièvre, la pauvre petite cloîtrée redevenait quelqu'un de la plaine de Karadjiamir, comme on redevient enfant. Et sous cet aspect antérieur à l'étonnante culture dont elle était si fière, André l'aimait davantage. Cette fois encore, au petit mot de Jenan, il y avait un post-scriptum de Mélèque. Après des reproches sur la rareté de ses lettres toujours courtes, elle disait: Nous admirons votre agitation en vous demandant comment il faudrait nous y prendre pour être agités nous aussi, occupés, surmenés, empêchés d'écrire à nos amis. Enseignez-nous le moyen, s'il vous plaît. Nous, au contraire, c'est tout le jour que nous avons le temps d'écrire, pour notre malheur et pour le vôtre. Mélèque. Chapitre 36. Quand André revint en Turquie, son congé terminé au premier jour de mars 1905, Stamboul avait encore son manteau de neige, mais ce jour-là, c'était sous un ciel admirablement bleu. Autour du paquebot qui le ramenait, des milliers de goélands et de mouettes tourbillonnaient. Le Bosphore était criblé de ces oiseaux comme d'une sorte de neige à plus gros flocons. Des oiseaux fous, innombrables, une nuée de plumes blanches qui s'agitait en avant d'une ville blanche, un merveilleux aspect d'hiver avec l'éclat d'un soleil méridional. Zeynep et Melek, qui savaient par quel paquebot ils devaient rentrer, lui envoyèrent le soir même, par leur nègre le plus fidèle, leur sélam de bienvenue, en même temps qu'une longue lettre de Jenan, qui, disait-elle, était guérie, mais prolongeait encore son séjour dans son vieux palais lointain. Une fois guérie, la petite barbare de la plaine de Karadjiamir était revenue volontaire et compliquée. Plus du tout la chose humble que son ami pouvait fouler aux pieds. Oh non! Car elle écrivait maintenant avec rébellion et violence. C'est qu'il y avait eu derrière la grille des harems d'incohérents bavardages sur ce livre qu'André préparait, et une jeune femme, que cependant il avait à peine entrevue et seulement sous l'épais voile noir, se serait vantée, prétendaient quelques-uns, d'être son amie, la grande inspiratrice de l'œuvre projetée. Et Jenan, la pauvre séquestrée là-bas, s'affolait d'une jalousie un peu sauvage. André, ne comprenez-vous pas quelle rage d'impuissance doit nous prendre quand nous pensons que d'autres peuvent se glisser entre vous et nous? Et c'est pis encore quand cette rivalité s'exerce sur ce qui est notre domaine, vos souvenirs, vos impressions d'Orient. Ne savez-vous pas, ou avez-vous oublié, que nous avons joué notre vie, sans parler de notre repos, et cela uniquement pour vous les donner complètes, ces impressions de notre pays? Car ce n'était même pas pour gagner votre cœur, nous le savions las et fermé. Non, c'était pour frapper votre sensibilité d'artiste et lui procurer, si l'on peut dire, une sorte de rêve à demi-réel. Afin d'arriver à cela qui semblait impossible, afin de vous montrer ce que, sans nous, vous n'auriez plus qu'imaginer, nous avons risqué, les yeux ouverts, de nous mettre dans l'âme un chagrin et un regret éternel. Croyez-vous que beaucoup d'Européennes en eussent fait autant? Oui, il y a des heures où c'est une torture de songer que d'autres pensées viendront en vous qui chasseront notre souvenir. Que d'autres impressions vous seront plus chères que celles de notre Turquie vue avec nous et à travers nous. Et je voudrais, votre livre fini, que vous n'écriviez plus rien, que vous ne pensiez plus, que vos yeux durs et clairs ne s'adoucissent jamais plus pour d'autres. Et quand la vie m'est trop intolérable, je me dis qu'elle ne durera pas longtemps et qu'alors, si je pars la première, et s'il est possible aux âmes libérées d'agir sur celles des vivants, mon âme à moi s'emparera de la vôtre pour l'attirer, et où je serai, il faudra qu'elle vienne. Ce qui me reste à vivre, je le donnerai sur l'heure pour lire 10 minutes en vous. Je voudrais avoir la puissance de vous faire souffrir, et le savoir, moi qui aurais donné il y a quelques mois cette même vie pour vous savoir heureux. Mon Dieu, André, êtes-vous donc si riche en amitié que vous en soyez si gaspilleur? Est-ce généreux à vous de faire tant de peine à qui vous aime et à qui vous aime de si loin, d'une tendresse si désintéressée? Ne gâtez pas follement une affection qui, pour être un peu exigeante et jalouse, n'en est pas moins la plus vraie, peut-être, et la plus profonde que vous ayez rencontrée dans votre vie. Jane Ann. André se sentit nerveux après avoir lu. Le reproche était enfantin, ne tenait pas debout, puisqu'il n'avait parmi les femmes turques d'autres amis que ces trois-là. Mais c'est le ton général qui n'allait plus. Cette fois, il n'y a pas à se le dissimuler, se dit-il. Voici une vraie fausse note, un grand éclat discord au milieu de ces trois amitiés sœurs, dont je m'obstinais à croire la pure harmonie tellement inaltérable. Pauvre petite Jenan, est-ce possible pourtant? Il essaya d'envisager cette situation nouvelle qui lui parut sans issue. Mais cela ne peut pas être, se dit-il. Cela ne sera jamais, parce que je ne veux pas que cela soit. Voilà pour ce qui me concerne. Oh, de mon côté, la question est tranchée. Et quand on sait prononcer d'une façon aussi nette envers soi-même, cela protège bien contre les pensées troubles et les endormissements perfides. Son mérite à se parler ainsi n'était d'ailleurs pas très grand, car il y avait la conviction absolue que Jenan, même l'aimât-elle, resterait toujours intangible. Il connaissait à présent cette petite créature à la fois confiante et hautaine, audacieuse et immaculée. Elle était incapable de se livrer loin à un ami qu'elle jugeait décidé à ne pas sortir de son rôle de grand ami fraternel, même sans doute elle eût laissé retomber à jamais son voile sur son visage, avec une déception irrémédiable, rien que pour une pression de main un peu prolongée ou semblante. L'aventure ne lui en paraissait pas moins pleine de menaces. Et des phrases dites autrefois par elle et qu'il avait à peine frappées lui revenaient à la mémoire aujourd'hui avec des résonances graves. L'amour d'une musulmane pour un étranger n'a d'autre issue que la fuite ou la mort. Mais le lendemain, par un beau temps presque déjà printanier, tout lui sembla beaucoup moins sérieux. Comme l'autre fois, il se dit qu'il y avait peut-être pas mal de littérature dans cette lettre, et surtout de l'exagération orientale. Depuis quelques années, du reste, pour lui faire entendre qu'on l'aimait, il fallait lui prouver jusqu'à l'évidence, tant le chiffre de son âge lui était constamment présent à l'esprit en obsession cruelle. Et, le cœur plus léger qu'hier, il se rendit à Stamboul, à Sultan Selim, où l'attendait Zeyneb et Melek, qui lui tardait de revoir. Stamboul, toujours diversement superbe dans le lointain, était ce jour-là pitoyable à voir de près, sous l'humidité et la boue des grands dégels, et l'impasse où s'ouvrait la maisonnette des rendez-vous avait des plaques de neige encore le long des murs à l'ombre. Dans l'humble petit harem où il faisait froid, elles le reçurent, le voile relevé, confiantes et affectueuses, comme on reçoit un grand frère qui revient de voyage. Et tout de suite, il fut frappé de l'altération de leurs traits. Le visage de Zeynep, qui restait toujours la finesse et la perfection même, avait pris une pâleur de cire. Les yeux s'étaient agrandis et les lèvres décolorées. L'hiver très rude cette année-là en Orient avait dû aggraver beaucoup le mal qu'elle dédaignait de soigner. Quant à Mélèque, pâlie elle aussi, un pli douloureux au front, on la sentait concentrée, presque tragique, mûrie soudain pour quelque résistance suprême. Ils veulent encore me marier, dit-elle âprement et sans plus en réponse à l'interrogation muette qu'elle avait deviné dans les yeux d'André. Et vous? Demanda-t-il à Zeynep. Oh, moi, j'ai la délivrance là sous ma main, répondit-elle en touchant sa poitrine, que soulevait de temps à autre une petite toux sinistre. Toutes deux se préoccupaient de cette lettre de Jenan, qui hier venait de passer par leurs mains et qui était cachetée, chose sans précédent entre elles où il n'y avait jamais eu un mystère. Mais que pouvait-il bien vous dire? Oh mon Dieu, rien, des enfantillages, je ne sais quels absurdes caquets de harem dont elle s'est émue bien à tort. Ah, sans doute l'histoire de cette nouvelle inspiratrice de votre livre qui aurait surgi en dehors de nous. Oui, justement, ça ne tient pas debout, je vous assure, car en dehors de vous trois et des quelques vagues fantômes à qui vous m'avez vous-même présenté, oh, mais nous n'y avons jamais cru, ni ma sœur, ni moi, mais elle, là-bas, loin de tout, dans la réclusion, qu'est-ce que vous voulez? On se monte la tête. Et elle se l'est montée, eh bien, qu'elle m'a très sérieusement. Oh, pas à mort, toujours, interrompit Melek, ou du moins cela n'en a pas l'air. Tenez, regardez plutôt ce qu'elle m'écrit ce matin. Elle lui tendit ce passage de lèvres, après avoir replié la feuille, car sur la suite, que sans doute il ne devait pas lire. Dites-lui que je pense à lui sans cesse, que ma seule joie au monde est son souvenir. Ici, je vous envie, c'est tout ce que je fais. Je vous envie pour les moments que vous passez ensemble, pour ce qu'il vous donne de sa présence. Je vous envie de ce que vous êtes si près de lui, de ce que vous pouvez voir son regard, de ce que vous pouvez serrer sa main. Ne m'oubliez pas quand vous êtes ensemble. Je veux ma part de vos réunions et de leurs dangers. Évidemment, conclut-il en rendant la lettre pliée, cela n'a pas l'air d'une haine bien mortelle. Il avait fait son possible pour parler d'un ton léger, mais ces quelques phrases communiquées par Melek le laissait plus convaincu et plus troublé que la longue lettre violente à lui adressée. Oh, pas de littérature là-dedans. C'était tout simple et si clair. Et avec quelle candeur elle écrivait à ses cousines ces phrases transparentes, quand elle avait pris la peine de cacheter si soigneusement ses grands reproches amoureux de l'autre jour. Ainsi avait décidément tourné contre son attente cette étrange et paisible amitié de l'année dernière avec trois femmes qui au début ne devaient former qu'une indissoluble petite trinité, une seule âme à jamais sans visage. Ce résultat l'épouvantait, bien, mais le charmait aussi. En ce moment, il se sentait incapable de dire s'il préférait que ce fût ainsi ou que ce ne fût pas. « Et quand revient-elle » demanda-t-il. Au premier jour de mai, répondit Zeneb, nous devons nous installer, comme l'année dernière, dans notre péali de la côte d'Asie. Nos humbles projets sont d'y passer encore un dernier été ensemble, si la volonté de nos maîtres ne vient pas nous séparer par quelques mariages avant l'automne. Je dis dernier, parce que moi, l'hiver sans doute m'emportera. Et dans tous les cas, les deux autres, l'été prochain, seront remariés. Oh, ça, on verra bien, dit Melek avec un sombre défi. Pour André également, ce serait le dernier été du Bosphore. Son poste à l'ambassade prenait fin en novembre. Il était décidé à suivre passivement sa destinée, un peu par fatalisme, puis aussi parce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas s'entêter à prolonger, surtout lorsqu'elle ne saurait avoir que des solutions douloureuses ou coupables. Il entrevoyait donc avec beaucoup de mélancolie le recommencement de cette saison enchantée au Bosphore, où l'on circule en caïque sur l'eau bleue, le long des deux rives aux maisons grillagées, ou bien dans la vallée du Grand Seigneur, et dans les montagnes de la côte d'Asie tapissées de bruyères roses. Tout cela reviendrait une suprême fois, mais pour finir sans aucune espérance de retour. Sur les rendez-vous avec ses trois amis, pèserait, comme l'année dernière, la continuelle attente des délations, des espionnages capable en une minute de le séparer d'elle pour jamais. Et de plus, cette certitude de ne pas revoir l'été suivant serait là pour donner plus d'angoisse à la fuite des beaux jours d'août et de septembre, à la floraison des colchiques violets, à la jonchée de feuilles des platanes, à la première pluie d'octobre. Et puis surtout, il y aurait cet élément nouveau, si imprévu, l'amour de Jenan, qui, même incomplètement avoué, même tenu en bride, comme elle en serait capable, avec sa petite main de fer, ne manquerait pas de rendre plus haletante et plus cruelle la fin de ce rêve oriental. Chapitre 37. Vers le 10 du mois d'avril, le valet de chambre d'André, en le réveillant le matin, lui annonça d'une voix joyeuse, comme un événement pour lui faire plaisir. « Oh, j'ai vu deux hirondelles! Oh, elles chantaient! Mais elles chantaient !» Déjà, les hirondelles étaient à Constantinople. Et quel chaud soleil entrait ce matin-là par les fenêtres. Mon Dieu, les jours fuyaient donc encore plus vite qu'autrefois. Déjà a commencé le printemps. Déjà une chose entamée, au lieu d'être en réserve pour l'avenir, comme André pouvait se le figurer hier encore, par le temps sombre qu'il faisait, et avant les hirondelles apparues. Et le prochain été, qui arriverait demain, qui arriverait tout de suite, serait le dernier, irrévocablement le dernier de sa vie d'Orient, et le dernier sans doute de sa simili-jeunesse. Retourner en Turquie plus tard, dans les grisailles crépusculaires de son avenir et de son déclin. Peut-être, oui. Mais cependant, pourquoi faire? Quand on revient, qu'est-ce qu'on trouve? De soi-même et de ce qu'on a aimé? Quelle décevante aventure que ces retours, puisque tout est changé en mort. Et d'ailleurs, se disait-il, quand j'aurai écrit le livre dont ces pauvres petites m'ont arraché la promesse, ne me serais-je pas fermé à tout jamais, ce pays? N'aurais-je pas perdu la confiance de mes amis les Turcs et le droit de citer dans mon cher Stamboul? Il passa comme un jour, ce mois d'avril. Pour André, il passa en pèlerinage et rêveries à Stamboul, stations à Eyyub ou à Sultan Fatih, et narguilé de plein air, malgré les temps incertains, les reprises du froid et du vent de neige. Et puis, ce fut le 1er mai, et Jenan ne parla point de quitter son vieux palais inaccessible. Elle écrivait moins que l'an dernier, et des lettres plus courtes. « Excusez mon silence, lui dit-elle une fois, tâchez de comprendre, il y a tant de choses dedans. » Zeynep et Melek, cependant, affirmaient toujours qu'elle viendrait et semblaient bien en être sûrs. Ces deux-là aussi, André les voyait moins que l'année dernière. L'une était plus retirée de la vie et la seconde plus inégale, sous cette menace d'un mariage. En outre, les surveillances avaient redoublé cette année, autour de toutes les femmes en général et peut-être en particulier autour de celle-là, que l'on soupçonnait, ou très vaguement encore, d'allées et venues illicites. Elles écrivaient beaucoup à leurs amis, qui pourtant les aimaient bien, mais se contentaient parfois de répondre en esprit, d'intention seulement. Et alors, elles lui faisaient des reproches, et si discrets. Kassim Pacha, le 8 mai 1905. « Cher ami, qu'y a-t-il ? Nous sommes inquiètes, nous, nos pauvres amis lointaines et humbles. Quand des jours se passent ainsi, sans des lettres de vous, un lourd manteau de tristesse nous écrase les épaules, et tout devient terne, et la mer et le ciel et nos cœurs. Oh, nous ne nous plaignons pas, pourtant, je vous assure, et ceci n'est que pour vous redire encore une fois une chose déjà vieille et que vous avez du reste, c'est que vous êtes notre grand et seul ami. Êtes-vous heureux dans ce moment? Vos jours ont-ils des fleurs? Suivant ce que nous offre la vie, le temps passe vite ou il se traîne. Pour nous, oh, c'est se traîner qu'il fait. Je ne sais pourquoi nous sommes là dans ce monde, mais peut-être bien pour l'unique joie d'être vos esclaves, très dévoués, très fidèles jusqu'à la mort et au-delà. Zeynep et Melek, déjà le 8 mai. Il lut cette lettre à sa fenêtre par un long crépuscule tiède qui invitait à s'attarder là, devant l'immense déploiement des lointains et du ciel. Chez lui, on n'était vraiment plus à Péra. Très loin de la grande rue tapageuse, on dominait ce bois de vieux cyprès odorants qui est enclavé dans la ville et s'appelle le Petit Champ des Morts, et on avait Stamboul avec ses dômes dressés en face de soi sur tout l'horizon. La nuit descendit peu à peu sur la Turquie, une nuit sans lune, mais très étoilée. Stamboul, dans l'obscurité, se drapa de magnificence, redevint comme chaque soir une importante découpure d'ombre sur le ciel. Et la clameur des chiens, le heurt du bâton ferré des veilleurs, commencèrent de s'entendre dans le silence. Et puis ce fut l'heure des médecins et de toute cette ville fantastique étalée là-bas. S'éleva l'habituelle symphonie des vocalises en mineur, hautes, faciles et pures, ailées comme la prière même. La première nuit, cette année, qui fut une vraie nuit de langueur et d'enchantement, André de sa fenêtre l'accueillit avec moins de joie que de mélancolie. Son dernier été commençait. Le lendemain, son ambassade, on lui annonça comme très prochaine l'installation de tous les ans à Therapia. Pour lui, cela équivalait presque au grand départ de Constantinople, puisqu'il n'y reviendrait que pour quelques tristes journées à la fin de la saison avant de quitter définitivement la Turquie. D'ailleurs, Turcs et Levantins s'agitaient déjà pour l'émigration annuelle vers le Bosphore ou les îles. Partout, le long du détroit, rive d'Europe et rive d'Asie, les maisons se rouvraient sur les quais de pierre ou de marbre, se démenaient les eunuques, préparant les villégiatures de leurs maîtresses, apportant à plein caïque, peintures lurées et dorées, les tentures de soie, les matelas pour les divans, les coussins à broderie. C'était bien l'été, venu pour André plus vite que d'habitude, et qui furait certainement plus vite encore, puisque toujours les durées semblent de plus en plus diminuer de longueur à mesure que l'on avance dans la vie. Chapitre 38. Le premier du beau mois de juin. Mais n'avais-tu aucune durée. Jenna n'était d'ailleurs pas revenue, et ses lettres, maintenant toujours courtes, n'expliquaient rien. Le premier du beau mois de juin. André, qui avait repris son appartement à Therapia, au bord de l'eau, devant l'ouverture de la mer Noire, s'éveilla dans la splendeur du matin, le cœur plus serré, du seul fait d'être en juin. Rien que ce changement de date lui donnait le sentiment d'un grand pas de plus vers la fin. D'ailleurs, son mal sans remède, qui était l'angoisse de la fuite des jours, ne manquait jamais de s'exaspérer dans l'effacement extra-lucide des réveils. Ce qu'il sentait fuir, cette fois, c'était ce printemps oriental qui le grisait comme au temps de sa jeunesse et qu'il ne retrouverait jamais, jamais plus. Et il songeait, « Demain finira tout cela. Demain s'éteindra pour moi ce soleil. » Les herbes sont strictement comptées avant la vieillesse et le néant. Mais, comme toujours, quand le réveil fut complet, reparurent à son esprit les mille petites choses amusantes et jolies de la vie quotidienne, les mille petits mirages qui font oublier la marche du temps et la mort. Pour commencer, ce fut la vallée du grand seigneur qui se représenta à son souvenir. Elle était là, en face de lui, derrière ces collines boisées de la rive d'Asie, qu'il apercevait chaque matin en ouvrant les yeux, et il irait, dans l'après-midi, s'y asseoir, comme l'année dernière, à l'abri des platanes, pour fumer des narguilés en regardant de loin passer sur la prairie des promeneuses voilées qui ressemblent à des ombres élyséennes. Ensuite, ce fut la préoccupation puérile de son nouveau caïque. On l'avertit qu'il venait d'accoster sous les fenêtres, arrivant tout fraîchement de Red Ostamboul, et que les rameurs demandaient à essayer leur livrée neuve. Pour son dernier été d'Orient, il voulait paraître en bel équipage, les vendredis aux eaux douces, et il avait imaginé une très orientale combinaison de couleurs. Les vestes des bateliers et le long tapis traînant allaient être en velours capucine brodé d'or, et sur ce tapis, le domestique assis à la turque tout au bout de la petite proue effilée serait en bleu de ciel brodé d'argent. Quand ces figurants eurent endossé leur parure nouvelle, il descendit pour avoir l'effet sur l'eau. En ce moment, elle était un miroir imperceptiblement ondulé, cette eau du Bosphore d'habitude plutôt remuante. Paix infinie dans l'air, fête de juin et de matin dans les verdures des deux rives. André fut content de l'essayage, s'amusa les yeux avec le contraste de ce bonhomme bleu et argenté, trônant sur ce velours jaune sombre, dont les broderies dorées reproduisaient un vieux poème arabe consacré à la perfidie de l'amour. Et puis il s'étendit dans le caïque pour aller faire un tour jusqu'en Asie, avant l'ardeur du soleil méridien. Le soir, il reçut une lettre de Zeyneb qui lui donnait rendez-vous au prochain jour des eaux douces, rien que pour se croiser en caïque, bien entendu. Tout devenait plus dangereux, disait-elle. La surveillance était redoublée. On venait aussi de leur interdire de se promener le long de la côte comme l'an passé, dans cette barque légère où elle ramait elle-même en voile de mousseline. Par ailleurs, jamais aucune amertume dans ses plaintes à Zeyneb. Elle était une trop grande douce créature pour s'irriter, et puis aussi trop lasse et tellement résignée à tout avec cette bonne et prochaine mort qu'elle avait accueilli dans sa poitrine. En post-scriptum, elle racontait que le pauvre vieux Mevlut, un eunuque d'Éthiopie, venait de se laisser mourir dans sa 83e année. Et c'était un vrai malheur, car il les chérissait, les ayant élevés, ne les aurait trahis ni pour or ni pour argent. Mais elle aussi l'aimait bien. Il était, pour ainsi dire, quelqu'un de la famille. Nous l'avons soigné, écrivait-elle, soigné comme un grand-père. Mais ce dernier mot avait été effacé après coup, et à la place, on lisait, au-dessus de l'écriture moqueuse de Mélèque, grand-oncle. Le vendredi suivant, il alla donc aux eaux douces pour la première fois de la saison, et dans son équipage aux couleurs plus étranges que l'an passé. Il y croisa et recroisa ses deux amis, qui avaient changé aussi leur livret bleu pour du vert et or, et qui étaient en tchatchaf noir, voilé semi-transparent, mais baissé sur le visage. D'autres belles dames, aussi très voilées de noir, tournaient la tête pour le regarder. Des dames qui passaient comme étendues sur cette eau aujourd'hui si encombrée d'énigmatiques promeneuses entre ces rives de fougères et de fleurs. Presque toutes ces invisibles s'occupaient de lui pour avoir lu ses livres, le connaissaient pour se l'être fait montrer par d'autres. Peut-être même avec quelques-unes d'entre elles avaient-ils causé l'automne dernier sans voir leur visage pendant ces aventureuses visites à ses petites amies. Il cueillait çà et là un regard attentif à un gentil sourire, à peine perceptible sous les épaisses gazes noires. Et puis aussi, elles approuvaient l'assemblage de couleurs qu'il avait imaginé et qui glissait avec un éclat de capucine et d'hortensia bleu sur le ruisseau vert, entre les prairies vertes et les rideaux ombreux des arbres. Elles s'étonnaient avec sympathie de cet Européen qui se révélait un pur oriental. Et lui, encore si enfant à ces heures, s'amusait d'attirer l'attention des jolies inconnaissables et d'avoir parfois régné secrètement sur leurs pensées à cause de ces livres qu'on lisait beaucoup cette année-là dans les harems. Le ciel de juin était adorable de tranquillité et de profondeur. Les spectatrices aux voiles blancs, qui observaient assises en groupe sur les pelouses des bords, montraient par l'entrebâillement des mousselines de jolis yeux calmes. On sentait la bonne odeur de foin et celle de tous ces narguilés qui se fumaient à l'ombre. Et on savait que l'été durerait bien 3 mois encore. On savait que la saison des eaux douces commençait à peine. On reviendrait donc plusieurs vendredis, et tout cela aurait en somme une petite durée, ne finirait pas dès demain, quand André remisa pour un temps son beau caïque dans les herbages, afin d'aller lui aussi fumer un narguilé à l'ombre des arbres, et faire à son tour celui qui regarde passer le monde sur l'eau. Il était en pleine illusion de jeunesse et griserie d'oubli. Chapitre 39. Lettre qu'il reçut de Reggenan la semaine suivante. Le 22 juin 1905. Me voici de retour au Bosphore. André, comme je vous l'avais promis, il me tarde infiniment de vous revoir. Voulez-vous descendre au jeudi à Stamboul et venir vers 2 heures à Sultan Selim dans la maison de ma bonne nourrice? J'aime mieux là que chez notre ami à Sultan Fatim, parce que c'était le lieu de nos premières rencontres. Mettez votre fez, naturellement, et observez les précautions d'autrefois. Mais n'entrez que si notre signal habituel, le coin de mouchoir blanc, sort d'entre les grilles à l'une des fenêtres du premier étage. Sinon, l'entrevue sera manquée, hélas, et peut-être pour longtemps. Alors continuez votre chemin jusqu'au bout de l'impasse, puis revenez sur vos pas de l'air de quelqu'un qui s'est trompé. Tout est plus difficile cette année, et nous vivons dans les transes continuelles. Votre ami, Jenan. Ce jeudi-là, il sentit plus que jamais, dès son réveil, l'inquiétude de son aspect. Depuis l'année dernière, se disait-il, j'ai dû sensiblement vieillir. Il y a des fils argentés dans ma moustache qui n'y étaient pas quand elle est partie. Il eût donné beaucoup pour n'avoir jamais troublé le repos de son ami. Mais l'idée de déchoir physiquement à ses yeux lui était quand même insupportable. Les êtres comme lui, qui auraient pu être de grands mystiques, mais n'ont su trouver nulle part la lumière tant cherchée, se replient avec toute leur ardeur déçue vers l'amour et la jeunesse, s'y accrochent en désespéré quand ils les sentent fuir. Et alors commencent les puérils et lamentables désespoirs, parce que les cheveux blanchissent et que les yeux s'éteignent. On épie dans la terreur désolée le moment où les femmes détourneront vers d'autres leurs regards. Le jeudi venu, André, à travers les désolations charmantes du vieux Stamboul, sous le beau ciel de juin, s'achemina vers Sultan Selim, effrayé de la revoir et peut-être plus encore d'être revu par elle. En arrivant à l'impasse funèbre, levant les yeux, il aperçut tout de suite la petite chose blanche indicatrice qui se détachait sur les brins et les socles sombres des maisons. Et derrière la porte, il trouva Mélèque aux aguets. Elles sont là? Demanda-t-il. Oui, toutes deux, elles vous attendent. À l'entrée du petit harem, de plus en plus pauvre et fané, Zeyreb se tenait le visage découvert. Au fond, très dans l'ombre, Jenan, qui cependant vint à lui avec un élan tout spontané et tout jeune, lui donnait sa main. Elle était bien là. Il réentendit sa voix de musique lointaine. Mais les yeux couleur d'eau profonde n'y étaient plus, ni les sourcils inclinés comme ceux des madones de douleur, ni l'ovale pur, ni rien. Le voile était retombé aussi impénétrable qu'au premier jour. Prise d'épouvante pour s'être trop avancée, la petite princesse Blanche se retirait dans sa tour d'ivoire. Et André comprit dès l'abord que toute prière serait inutile, que ce voile ne se relèverait plus jamais, à moins peut-être que ne survînt quelque circonstance tragique et suprême. Il eut le sentiment que dans cette affection si défendue, la période légère et douce avait pris fin. On marchait à partir d'aujourd'hui vers l'inévitable drame.